On y va déjà les deux, c'est ça? On va déjà les deux, nous, au début. Hein. Ouais.
Bonjour à tous, bienvenue ce matin. Ça fait du bien de se retrouver, d'avoir du beau temps. On est dans la thématique de la paix durant tous les cultes de cet été, ces cultes partagés. Et puis ce matin, j'avais un verset que j'ai lu cette semaine, si on peut juste l'afficher, voilà. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas effrayés. Alors, c'est quoi cette paix? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs paix, parce qu'il y a une paix du Christ, puis une paix du monde. Tout le monde aspire à la paix. Est-ce que ce matin, on va en découvrir un tout petit peu plus?
Bon, on va essayer en tout cas. On va essayer. Bonjour à chacun, à chacune, on a préparé ce culte, Johan et moi, sous une forme un peu de dialogue.
De dialogue.
De voilà. Dialogue.
En fait, c'est surtout pour t'aider dans ta prédication, parce que c'est pas toujours simple. Comme ça, tu peux la construire avec des questions pertinentes, tu vois.
Merci, j'apprécie les soins du conseil. Donc, on va parler de paix ce matin. Et je trouve intéressant d'effectivement réfléchir un peu à ce concept. Hein. C'est les cultes de l'été. On va parler de la paix de Dieu et de la paix avec Dieu.
Ça, c'est une bonne chose parce que là, comme ça, quand tu me le racontes...
Ouais, c'est un peu théorique. Hein.
Ouais, parce que c'est quoi la paix avec Dieu? Est-ce que ça signifie qu'on est en conflit avec lui? Donc, Ça questionne quand même de se dire qu'on peut être en conflit avec Dieu. Est-ce qu'on doit faire la paix avec Dieu? Enfin, comme à l'école, quand on dit qu'il faut faire la paix, hein, entre copains où on ne s'entend pas. Et qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Donc finalement, de voir un tout petit peu dans nos vies comment ça nous rejoint. Et ça, c'est important. Et potentiellement, vous aurez, vous, des questions. Et c'est là aussi, c'est intéressant de pouvoir être en dialogue. Et puis là, on se basera sur un texte intéressant.
Ah ouais, un de ces grands textes, comme l'apôtre Paul a su nous en proposer. Et c'est un de ces textes que nous allons lire tout à l'heure encore. Hein, c'est
exactement. Ça ? Alors peut-être juste avant, on va se mettre dans un moment de louange pour que notre âme s'ouvre à l'adoration et que nous puissions avoir ce temps de louange et d'adoration tous ensemble. Merci au groupe Louange qui a préparé ce moment.
Est-ce qu'on prie encore avant de démarrer ce temps ensemble? Cher Seigneur, nous te remercions pour la paix que tu nous proposes. La paix avec toi, la paix intérieure, la paix entre nous. On mesure que dans notre monde fracturé, c'est un cadeau tout spécial que tu nous invites à accueillir. Que ce matin, La gloire te revienne, toi qui es le principal artisan de paix. Et que nous soyons, comme Église, édifiés, encouragés, stimulés. Merci de nous permettre de vivre ces cultes de l'été, paroisse protestante et Église évangélique, ensemble. Te prions de nous faire goûter au privilège de la communion fraternelle. Nous voulons aussi le faire en communion avec nos frères et sœurs dans le monde, et en particulier celles et ceux qui vivent dans des conditions compliquées, de conflits, d'opposition, de persécution même. Manifeste ta présence, s'il te plaît, à leur côté. Et pour nous, nous tournons nos regards vers toi. Dans le nom de Jésus, amen.
Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de pouvoir louer ensemble le Seigneur. Le premier chant parle de Yeshua, Jésus en hébreu, qui signifie « Dieu sauve ». Unis avec les anges, nous voulons déclarer qu'il est le Dieu sauveur, miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable. Il est celui qui pardonne et relève. Chantons « Dieu sauveur ». Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton tous les ans déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis nos voix, nos voix unies à celles des anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu. Je lis le début du psaume 9. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel. Thank you. l'éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom, je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'éternel. Sujet de ma joie, alléluia. Le prochain chant de Samuel Olivier s'adresse au recoin de notre âme, blessure, déception, solitude, pour annoncer que par le sacrifice de Jésus, l'espoir renaît, la solitude est brisée et le péché est racheté. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sort du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. L'heure noire, prenez l'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté, éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ est ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi.
Alors, pour les enfants, il y a un temps avec Jennifer, qui est tout au fond. Un moment pour vous. Alors, je pense que vous allez un peu sortir, profiter du beau temps. Je vous laisse y aller et je vais juste prier pour vous. Merci, Père, pour ces enfants. Nous te demandons de les garder et de les garder dans ta paix ce matin avec Jennifer. Que tu bénisses aussi Jennifer, par Jésus-Christ. Amen. C'est intéressant ce dernier chant parce que le terme de s'éveiller, éveille-toi mon âme, en fait, bon, on pourrait dire que c'est tirer quelqu'un du sommeil, mais je pense que tout le monde est réveillé, c'est bon. Mais c'est aussi susciter l'apparition d'un sentiment, et on parle de la paix ce matin, ce sentiment, mais pas que. Et peut-être qu'on peut lire ces versets de Romains, pour pouvoir ensuite se questionner autour de ce texte et puis cette notion de paix. Comme tu le disais, il y a la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Mmh. Et deux notions qui ont l'air différentes hein, et qu'on aimerait un peu comprendre. Alors on peut afficher voilà, Romains 5, il y aura les versets 1 à 5 et 6 à 11, on va tout lire. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons, par la foi, eu accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve, et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit, quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils ? Il y a plus encore, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Est-ce que tout ça, ça veut dire qu'on est en conflit avec Dieu ? Parce que c'est ce qui semble un petit peu ressortir, c'est qu'il y a de la réconciliation et tout ça, mais concrètement, est-ce que on est en conflit avec Dieu?
C'est une vraie grande bonne question. Hein. Et il me semble qu'il y a une double réponse à ça, pour démarrer notre dialogue. C'est un niveau théologique global, d'après ce texte. Et puis après, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'appropriation. Le niveau théologique global, est-ce que nous sommes en conflit avec Dieu ? Évoque cette relation ou ces relations entre l'humanité, nous autres, les êtres humains, et Dieu. Puis ce texte, il nous parle d'une rupture fondamentale, c'est celle que relatent les premiers chapitres de la Genèse, probablement, où l'humanité s'est coupée de son Créateur en voulant devenir son propre Dieu. C'est l'épisode du Jardin d'Éden, la tentation du serpent qui incite Adam et Ève à manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, cette prétention à l'autonomie sans Dieu, on peut s'en tirer tout seul. Puis dans la suite de son argumentation, Paul va développer ce lien fondamental au péché d'Adam. Puis ça remonte encore au déluge. Et puis enfin, à l'épisode de la tour de Babel, vous vous souvenez, hein, quand les humains veulent construire une tour qui touche les cieux, qui s'élève jusqu'à la place de Dieu.
C'est un peu... c'est des choses bateaux comme ça, ouais. Adam et Ève, le péché, tour de déluge, tour de Babel et tout ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas là derrière une dimension symbolique qui va au-delà de simplement ces récits ?
Ouais. Alors, ces récits, ils sont là, et je pense qu'ils sont là pour notre instruction. Hein. Ils témoignent de la rupture de l'humanité avec son Créateur. C'est une réalité. L'humanité est naturellement coupée de son Créateur. Mais au-delà de la dimension symbolique de ces récits, création, le récit du déluge ou encore la tour de Babel, au-delà de ça, il y a la manière dont nous, aujourd'hui, êtres humains finis, on touche encore à la rupture avec Dieu. Ça, on va le voir, cette humanité coupée de Dieu dans les régimes totalitaires, par exemple, dans les violences, les oppressions systémiques de tous ordres, leurs conséquences sociales, économiques, environnementales. L'humanité ennemie de Dieu, elle change de visage au cours de l'histoire, mais c'est quelque chose qui demeure réel.
Mais ça, bon, c'est facile parce qu'on l'observe... ce qu'il y a autour de nous, on voit ce qu'il y a dans les journaux. C'est facile de critiquer un petit peu ce qui se passe autour, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de plus proche de nous ? Parce que, dans le fond, moi, j'ai souvenir petit, on se bataille entre frères et sœurs, mais il y a aussi quelque chose dans la relation qui est plus proche dans nos frères et sœurs en Christ ou dans des relations professionnelles. Donc, très proche de nous et pas simplement ce qu'on voit dans le monde, qu'on peut voir dans les journaux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'observe au loin, mais qui peut s'observer plus proche de nous.
Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus douloureux. Parce que c'est facile de dénoncer un système, de dire tel régime politique ou tel système économique est injuste et on y voit là une conséquence de la rupture avec Dieu. T'as raison. Le problème,
vas-y. Ouais. Est-ce qu'il y a une solution à ça.
Ouais, alors avant la solution, moi ce que je trouve compliqué, c'est de constater notre propre rupture, nous avec Dieu, et nous les uns avec les autres. Enfin, on vit dans le même monde, non ? Quand ça coince dans un couple, quand ça coince entre parents et enfants, quand ça coince, tu le disais, sur un lieu de travail, avec de la concurrence qui devient plus que de la concurrence, quand ça coince entre voisins, quand ça coince des fois dans mon propre intérieur, à moi, que je suis en conflit avec moi. Ça, c'est plus compliqué, ouais. Et puis si c'est sans solution, eh ben, enfin, sérieusement, faut trouver la corde pour se pendre, si c'est sans solution.
C'est un peu radical, là.
Ouais.
Bon, disons, on tourne en rond, ouais. Quoi. On tourne en rond à l'intérieur, ouais. Entre ça, ses pensées... Donc, dans le fond, est-ce qu'il y a une solution ?
Alors, clairement, oui. Oui, il y a une solution. C'est plus que du teasing. Oui, il y a une solution, et ce texte nous le dit assez fortement, hein, au verset 6. « Quand nous étions encore sans force, quand on était cuits, le Christ est mort pour nous, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier avec nous, pour mettre de la paix. » C'est la pure miséricorde de Dieu qui est visée ici, c'est sa grâce Verset 8. Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Et comment est-ce que Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime ? Le Christ est mort pour nous alors qu'on était encore des pécheurs. Alors oui, il y a une solution. C'est le mystère de la croix. Christ meurt à notre place. Il est victime de l'humanité ennemie de Dieu. Il meurt, lui, le juste, pour nous les injustes. Oui, il y a une solution.
Mais ça veut dire qu'il faut quand même comprendre qu'il y a un problème pour accepter une solution, enfin, ouais. Dans le fond. Parce que les versets que tu cites, ben, c'est qu'on part du principe que déjà on a compris qu'il y avait un problème,
ouais.
Et que ça amène une solution. Donc, concrètement, ça veut dire quoi, ce que tu nous racontes dans nos vies ?
Ouais, alors je pense là, maintenant, il y a une question d'appropriation. Hein. On a dressé, ou Paul dresse pour nous une sorte de tableau global, un tableau théologique, mais il y a une question d'appropriation, un niveau plus personnel, même dans l'argumentation de l'apôtre. C'est de l'ordre de l'appropriation. Dans son argumentation, vous avez vu, il y a l'usage du « nous ». Nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui. Il y a cette idée que quand on se rend compte que ça coince dans le monde en général, mais dans nos vies, nos existences, nos relations, il y a la prise de conscience qu'on a besoin de quelque chose de plus, qu'on a besoin d'être sauvé, en fait, tiré d'affaire. Ce que le Christ fait pour nous, et là, c'est de l'ordre de l'appropriation. C'est une histoire entre chacun de nous, chacune de nous et son Créateur. Nous avons besoin de faire la paix avec Dieu.
C'est une paix acquise, enfin, c'est une paix. Comment tu définirais ça ?
Ouais, je trouve un peu complexe aussi parce que l'apôtre parle de quelque chose d'acquis dans un premier temps. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Puis en même temps, dans notre cheminement à toutes et tous, je pense qu'on se rend bien compte que la paix, elle n'est jamais définitivement acquise. Et donc, on a besoin régulièrement de refaire la paix avec Dieu. Pas forcément parce qu'on sera en conflit ouvert avec lui, mais par exemple, lorsque, consciemment ou non, nous tenons Dieu responsable des malheurs qui nous arrivent. Lorsque, d'une manière ou d'une autre, nous lui en voulons à Dieu. Ou lorsque, sans forcément toujours nous en rendre compte, on décide de mener notre barque sans lui. Que c'est nous qui décidons. En fin de compte, c'est ma vie, puis je fais ce que je veux. Puis quand ça me tombe sur le coin de la figure, je lève le poing en disant « Ah, si Dieu existait !» Et peut-être que là, il y a dans ma vie un espace où j'ai besoin de refaire la paix avec Dieu. Peut-être.
Donc ça donne une sensation que ce n'est pas acquis. C'est un peu étrange parce que... En fait, c'est peut-être là où ça, on revient sur la paix avec Dieu, qui est en fait la relation qu'on a avec lui, qui est acquise par Jésus-Christ,
ouais.
Si j'ai bien compris.
Ouais, ouais.
Et puis après, il y a la paix de Dieu.
C'est ça.
C'est celle qui nous donne, qui est plutôt comme un sentiment qu'on a au-dedans de nous. C'est Dieu qui nous donne sa paix, qu'on peut accepter ou pas, finalement. Alors, dans les deux cas, hein, la paix avec Dieu, on l'accepte ou pas. Mais cette paix, on peut la recevoir si on l'accepte.
On peut la recevoir, ouais.
Il y a un peu
recevoir.
Les deux, hein, c'est avec Dieu puis de Dieu. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à... Parce que cette paix, finalement, de Dieu, c'est quoi ? C'est une absence de conflit ?
Oula, ouais, ouais.
Parce que... Enfin, moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, mais j'ai envie de dire, c'est quoi cette paix ? C'est juste, on est bien parce qu'il n'y a pas de conflit, ou on n'y pense pas, ou... Comment est-ce qu'on...
Alors, je pense que résumer la paix à l'absence de conflit, pour moi, ça manque de... Ça manque de force. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit. Ou ce n'est pas que l'absence de conflit. La paix, c'est quelque chose de fort qui vient nous habiter. qui vient nous aider à aller de l'avant, qui vient nous encourager. C'est un Dieu qui est avec nous. D'ailleurs, je trouve assez intéressant que l'apôtre Paul, au verset 3 à 4, quand il parle de la paix avec Dieu, dit ceci: « Nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve, et que le courage produit l'espérance. » Moi, je trouve intéressant qu'au moment de parler de la paix, non seulement de la paix avec Dieu, mais de la paix de Dieu, Paul dit, ouais, même au cœur de nos détresses. Les détresses, ce n'est pas un ongle incarné. Hein. Les détresses, ce n'est pas un point de contact sur la voiture. Ce n'est pas une difficulté passagère avec un enfant, avec un parent. Non, une détresse, c'est quelque chose qui nous submerge. Puis chacun d'entre vous ici pourriez venir raconter ce que c'est une détresse. Perdre un enfant, perdre un conjoint, perdre un ami, perdre un travail, perdre son pays, être jeté sur les routes de l'exil, perdre ses biens, perdre sa santé, perdre le courage. Chacun, chacune d'entre vous, vous pourriez venir me raconter, nous raconter, ce que c'est une détresse. Et en regard, ce que la paix de Dieu vous a amené dans la détresse. Et je retiens juste ici, quand on parle de la paix comme une absence de conflit, c'est un peu mou du genou, parce que Paul parle de la paix comme de l'espérance. Nous attendons, vous et moi, la venue de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, et la vie éternelle, au-delà de toutes nos détresses, y compris celles qui pourraient parfois nous submerger. Nous attendons la venue de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est notre espérance. Et dans la paix, il y a l'espérance.
Je trouverais intéressant de pouvoir avoir un exemple concret, parce que il y a cette paix à la fois de dire que de la conversion finalement, la paix avec Dieu, et puis la paix aussi qu'on ressent, la paix de Dieu. Ouais. Et là, je demande à Zena de me rejoindre, parce que il y a quelques questions à lui poser à Zena qui a vécu cette conversion.
Ouais.
Oui, bien.
Pas trop bien.
Voilà, comme ça. Voilà. Et j'avais justement quelques questions à te poser, parce que toi, tu es passé par la conversion vraiment d'un monde d'avant à un monde après. Et tu peux nous dire un petit peu plus là-dessus. Et puis aussi, cette paix que tu as ressentie. Et puis un petit peu ce qu'on a un peu discuté. Je te tends le micro.
J'ai pris des extraits, ça va ? Des extraits de textes que j'avais écrits quand j'étais à l'AOT.
Wow.
On devait dire d'où on vient, un peu. Et puis, lors du baptême. Donc, ce n'est pas énorme. Hein. Alors, oui, ah, donc le premier, c'est au moment où j'ai fait la vraie rencontre avec Dieu.
Ouais.
C'est ce moment où j'avais des jeunes à la maison qui m'enseignaient la Bible et tout ça. Et puis qu'à un moment donné, j'ai décidé que ouais, Dieu existe, mais pour les autres. Parce que chez moi, c'était une vraie pagaille. Et puis qui n'était pas venu. Tu vois, le chemin de la citadelle, ils ne connaissaient pas quoi. Donc je leur dis, bon, ben, moi, ça va. Je n'ai plus envie. Hein. Il existe sûrement, mais voilà. Chez moi, il n'a pas eu envie de venir. Et à ce moment-là, ils ont demandé à faire une prière avec moi, à genoux. Et quand on s'est assis, donc c'est là où je lis cette partie-là. Ensuite, une fois assis sur mon canapé, J'ai physiquement ressenti une couverture qu'on posait sur mes épaules et qui me réchauffait. C'était exquis comme instant, c'était consolateur. Ce sont les mots de l'époque. Wow. La petite chose que tu as là, ça a été, je l'ai reçue de la part d'un ami de ma fille, qui était lui chrétien. Et quand il a compris que j'entrais dans la foi, il me l'a offert. Et ça, c'est un verset. Le verset de Matthieu 11, 28, où il dit « Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Je pense qu'il a tenu parole. Et je n'ai plus en moi tout ce qui est souffrant. » Il faut savoir que j'ai eu une enfance de, comment est-ce qu'on dit, adolescence, vie d'adulte, où il y avait énormément d'angoisse, stress, de colère. Avec cette paix reçue en vrai, tout ça, ça n'existe plus. Wow. Je pouvais dire, par exemple, connaître Jésus m'a apporté une grande sérénité, une solidité, harmonie dans mon foyer. Ça, c'est ce qui est écrit. Sachant que, justement, les choses étaient vraiment, vraiment compliquées. Et qu'avec Dieu, avec Jésus, les choses se sont tellement améliorées. Alors, personne ne vous voyait là. Je suis très, très sereine. J'ai l'air vachement bien et tout. Avant, je ne serais jamais venue. J'étais trop dans l'anxiété, dans l'angoisse. Voilà, des choses comme ça. Il y avait là quelque chose qui manquait. C'est un peu comme si on dit que Jésus est venu remplir ça. Et il n'a jamais dérempli, hein, excusez-moi du mot. Voilà. C'est jamais parti. Et puis, j'avais juste envie de dire quelque chose par rapport à ce verset. Quand Joanne m'en a parlé, donc je me suis dit, bon, je vais dire quoi. Donc, je vais chercher ce que j'ai écrit à l'époque, parce que c'est vrai qu'avec le temps, donc on devient quelqu'un d'autre, en fait. Mais c'était important, en fait, ce qui s'est passé. Hein. Et j'ai trouvé donc ce que je vous ai écrit, et ce verset. Et ce matin, Thierry m'a mis déjà depuis des mois dans mon téléphone et la Bible, sur lequel je ne suis jamais allée parce que moi j'ai d'autres endroits. Mais ce matin, ça m'a appelé. Et j'ouvre l'application et la Bible. Qu'est-ce qui se passe dessus? On fait un discours sur ce verset. On parle de la paix. Et je trouvais ça dingue parce que justement avec Johan on avait dit oui je peux venir témoigner sur la paix que j'ai reçue. Je me dis que Seigneur il voulait vraiment que ça se passe.
Des belles coïncidences.
Oui, voilà.
Merci beaucoup. C'est toujours je le rends. Oui.
Merci. Hein,
merci beaucoup. Je trouve toujours intéressant de pouvoir mettre un peu en image du concret, des expériences de vie et vraiment de ce qu'on ressent. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut garder de tout cela?
Je vais essayer de garder en équilibre ce que Zena a dit et puis la question super importante que tu posais sur est-ce que la paix est l'absence de conflit. Nos vies, elles sont fracturées. Il y a une fracture avec Dieu que le Christ, par sa grâce, vient combler. C'est l'œuvre de la croix. La fracture avec Dieu, elle est comblée. Nous sommes en paix avec Dieu. Et puis il y a nos fractures intérieures et nos fractures relationnelles. Voilà, ces choses qui demandent la paix de Dieu. Il vient apporter. En somme, être en paix avec Dieu, c'est aussi être en paix avec soi-même et trouver même la paix dans l'épreuve. Pourquoi ? Est-ce que c'est juste qu'un discours motivationnel ? Non. Pourquoi c'est possible ? Parce que Dieu est de notre côté. Quoi qu'il arrive, la paix avec Dieu nous procure la paix de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que vous trouverez nulle part ailleurs. La paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, nous procure la paix de Dieu. Ce qui nous permet d'avancer aussi paisiblement que possible dans la vie, avec des allers-retours. Hein. Ça, c'est la vie. Bienvenue au club. Mais la paix, elle est possible. Avec Dieu, en nous et autour de nous.
Ça nous invite à enchaîner.
Ouais.
Parce que finalement, cette paix avec Dieu, on peut aussi la concrétiser dans quelque chose qui montre cette réconciliation. Est-ce que tu voulais peut-être relire, toi, les versets ?
On pourrait relire le verset avant chant, je crois.
Ouais, exactement.
Je relis les versets 6 à 11. « En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Et le geste qu'on va faire dans quelques instants après le chant démontre à quel point Dieu a voulu cette réconciliation, l'a rendue possible et que nous pouvons nous l'approprier.
Ce chant de Matt Marouane est une prière de reconnaissance pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Il nous rappelle que le monde a voulu effacer Jésus, le ridiculiser, l'anéantir, alors qu'il est en réalité le Sauveur dont la gloire et le visage éblouissent aujourd'hui le croyant. Merci pour la croix. Sacrifice parfait. Merci pour la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de
Alors pour ce temps de scène, ce temps de pour se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, cette réconciliation qu'il a fait entre nous et Dieu, je propose de lire l'institution de la scène dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 et suivant. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est un peu difficile les derniers versets là. Est-ce que tu peux un peu expliquer tout ça? Ouais, je veux bien les relire.
Le relire, là.
C'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
C'est un texte qui envoie, comme on dit, hein. Moi, j'ai grandi dans une tradition évangélique où pendant des années, j'ai entendu que pour prendre dignement la scène, il fallait discerner le corps du Seigneur, littéralement le corps de Jésus, sanguinolent sur la croix. Et que si je n'avais pas cette image devant moi, je ne pouvais pas prendre la scène. Puis je n'avais pas l'image. Puis j'avais très envie de prendre ce repas et très peur en même temps. Et je m'en suis privé pendant des années. Mais pour une mauvaise interprétation. Parce que chaque fois que l'apôtre Paul, dans la première aux Corinthiens, dont nous avons lu un extrait, parle du corps du Seigneur, chaque fois, il parle de l'Église. Jamais du corps physique du Seigneur Jésus. Chaque fois, il parle de l'Église. Manger la scène indignement, prendre ce repas indignement, c'est avoir du mépris pour l'Église que le Seigneur a rachetée. C'est ça, prendre le repas du Seigneur indignement. C'est pas ne pas voir Jésus qui saigne, qui a des cicatrices et qui souffre. Ça, c'est doloriste. Mais ce n'est pas ce que Paul vise. Quand Paul parle de prendre la scène indignement, il en parle d'une façon qui nous ferait mépriser l'Église. Parce que nous sommes une Église rachetée. L'Église sur la surface de la terre est au bénéfice de la grâce de Dieu dont nous avons parlé, de son souci de la réconciliation et de la paix. On est dans le même bateau, vous et moi, des hommes et des femmes finis, qui avons besoin de la paix de Dieu, de la réconciliation avec Dieu et de la possibilité de la manifester dans l'Église. La scène, elle est faite pour être prise, pas pour être mise de côté. En considérant bien sûr l'œuvre du Seigneur Jésus pour nous et en se souvenant qu'il l'a fait pas que pour moi, mais pour une Église qu'il a rachetée par son propre sang. On vous invite à prendre ce repas parce qu'il est fait pour être partagé, il n'est pas fait pour être laissé de côté.
Merci pour cette explication. Alors, les personnes qui sont autodésignées pour distribuer peuvent venir.
Et pendant ce temps, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à prier tout simplement, exprimer votre reconnaissance, votre dépendance. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la réconciliation avec Dieu. Merci pour la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Merci de pouvoir le vivre aussi dans ton Église, qui est ton corps. On se réjouit de prendre ce repas ensemble aujourd'hui et encore ces semaines, mois, années qui viennent, jusqu'au jour où tu nous rappelleras près de toi et où nous le prendrons avec toi. Dans le nom de Jésus.
Un dernier chant, le chant d'Exo, est une déclaration d'engagement. Il exprime le choix de suivre Jésus comme Seigneur et Maître, sans se laisser arrêter par les choses de ce monde. En vivant de sa grâce et de son amour, parce que sa présence vaut plus que tout le reste. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ne sépare de m'arrête, sans rien que le chant de sa voix.
Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface.
Seul instant auprès de toi vaut bien des heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas.
Alors, on a maintenant un temps d'annonce et d'offrande. On va faire les deux en même temps. Ah, mais c'est gentil, merci. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas de chantage. C'est vraiment une volonté propre. Pour les annonces, je ne sais pas si la paroisse protestante à des annonces, à part que le prochain culte est au CEPOM à 10h. Peut-être un petit point pour Merin-les-Bains, c'est mardi, sauf erreur. Est-ce que toi, Claude, tout est OK? Tu as besoin de bénévoles encore ou tout roule? Donc, c'est faut venir manger les raclettes. OK. Je savais que tu avais besoin de parler.
Alors, il est vrai qu'avec... Bonjour. Il est vrai qu'avec ces canicules, la Merin-les-Bains a restreint un petit peu son ouverture. Donc, il n'est pas dit qu'à partir de 14h jusqu'à 18h, ça soit ouvert. Donc, j'attends encore des confirmations. C'est surtout pour les personnes qui viennent tenir le stand de la buvette ou bien qui viennent tenir le stand de Tricot & Co. Donc, je dois encore leur confirmer, la commune doit confirmer que ça a lieu, que c'est ouvert ou pas. Mais pour le reste, pour la raclette, ça a lieu. D'ailleurs, Michel, il a déjà tout préparé. Michel et Elisabeth ont déjà tout préparé. Donc, venez manger la raclette, venez partager un bon moment avec nos concitoyens. Et c'est toujours très convivial. Merci. Donc, la raclette, c'est à partir de 18h30, 19h, le temps de boire un petit apéro avant, et puis après, on peut enchaîner. Et après, il y a le film, donc, Divertimento, qui est un joli film d'une jeune maghrébine qui veut devenir chef d'orchestre, et à Paris, dans ce milieu d'hommes, elle a déjà pas mal de handicaps à passer par-dessus pour réaliser son rêve. Mais c'est un très beau film.
Merci. Et puis, donc, cette semaine, pas de grillade, ça sera la semaine encore d'après, à partir du le 15. Et c'est tout pour les annonces. Donc, j'invite maintenant Philippe à me rejoindre pour un temps de bénédiction.
Oui. Alors, je vous invite à vous lever. Et j'emprunte la bénédiction de ce matin, l'envoi de ce matin, encore à l'apôtre Paul. Et oui, 2 Thessaloniciens 3, verset 16, que le Seigneur, la source de la paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous et toutes. Je vous souhaite un très joli dimanche, une belle semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine au CEPOM. Et déjà mardi, mais aussi dimanche prochain pour le culte au CEPOM. Très bon dimanche, allez dans la paix.